Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ressusciter, c'est échapper au tombeau et à son confinement, écrivait Mgr Eschène, évêque du diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix, dans son message de Pâques. Oui, mais pour s'ouvrir, rajoutait-il, à une autre vie, à un autre mode de vie, sinon, à quoi bon ? Quelques jours après le 11 mai, dans ce temps encore très incertain du passage d'un état de confinement à celui du recouvrement d'une liberté de mouvement toute progressive, nous rencontrons à Pamiers, à l'aune de ses réflexions et questionnements, quelques membres de la communauté paroissiale. Un peu moins de 9h, ce jeudi 14 mai, pour prier et réciter ensemble le chapelet, une dizaine de fidèles, dont Anne-Marie et Valérie, se retrouvent en l'église de Notre-Dame-du-Camp.
Nous nous retrouvons ici depuis le 1er mai. Nous avons demandé l'autorisation à notre prêtre, qui nous l'a donné d'ailleurs, pour que l'on puisse dire le chapelet tous les matins à 9h, pendant le mois de mai.
Un chapelet pour prier la Vierge Marie, pour demander des grâces aussi peut-être.
Bien sûr, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà, nous demandons pour la France, nous demandons pour la conversion de tous les pécheurs, croyants et incroyants. Nous demandons pour nos malades, pour nos défunts, pour tous ceux qui souffrent aussi dans cette situation qui est quand même difficile pour certains. Même après le déconfinement, c'est très difficile pour certains.
Une manière pour vous peut-être aussi de faire église.
Bien sûr, nous en avons besoin. C'est un besoin. La preuve, c'est que nous nous retrouvons tous les matins. Nous avons besoin de nous retrouver auprès du Saint-Sacrement, auprès de notre église, qui est notre maison.
Tout seul, on peut prier chacun dans sa maison. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. On prie en famille, ensemble, mais on a besoin de se retrouver.
On a besoin de se retrouver, puisque pendant ce confinement, ce que nous avons mis en place, ça a été la prière commune. Par téléphone, deux par deux, par téléphone, que ce soit le chapelet, que ce soit pour la miséricorde, que ce soit pour les équipes de rosaire dont nous nous occupons. Nous avons fait cela deux par deux. Nous avons gardé les mêmes heures, les mêmes jours. Pour le relais d'adoration, c'est pareil. Il y a une prière commune qui se fait à toutes les heures et nous la faisons par téléphone avec chaque adorateur. Et cela a gardé un lien et c'est un lien très fort. Et c'est vrai que nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver en église après, quoi. Mais ce lien a été très, très important.
Valérie, nos églises ont toujours été ouvertes. Donc tous les matins, enfin, moi, j'y allais pour prier. Il y avait quelques personnes. Voilà, et on est bien. C'était l'occasion de se lever, de se dire, au lieu d'aller marcher, au lieu d'aller voir papoter avec les copines, eh bien, on allait devant la chapelle et puis on priait. Et ça, c'était extra. Moi, j'ai vu des pauvres qui rentraient dans l'église, qui allaient brûler leur petit cierge et qui repartaient. Ben, ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Non, mais c'est vrai, presque, on avait l'impression que ceux de notre communauté, ils avaient peur d'attraper le corona devant l'église. Alors moi, je lançais toujours des perches, mais l'église est ouverte, c'est pas fait pour les chiens. Rentrez, il y a un gentil Jésus, il n'y a pas un mauvais corona, là. Bon, enfin bref, voilà. Donc moi, j'étais bien, j'avais la paix. On était quelques-unes, là, à prier. On était bien. Donc je vais continuer, et je vais décaler mes activités, parce que je trouve que c'est super. Le matin, on se lève, hop, on va voir le Seigneur. Et puis les grâces qui tombent, les grâces. Et puis même pour nos prêtres, je trouve que c'était important quand ils rentraient de voir qu'il y avait des personnes qui priaient. L'église continue à vivre plutôt que de fermer les portes comme une prison. Voilà, voilà. Puis de toute façon, on avait l'autorisation, donc on pouvait y aller autant qu'on voulait.
Le vicaire général du diocèse, le père Gilles Rieux, est également le curé de la paroisse de Pamiers. Nous le retrouvons un peu plus tard dans la cour de la Maison des Œuvres. Pour lui, il y aura un avant et un après coronavirus.
Il y aura un avant et un après, et je pense que ça appartient à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut garder de ce temps qu'il a vécu. Il y a eu des prises de conscience, il y a eu des réflexions. On a eu du temps pour prendre du recul par rapport à notre vie. Moi-même, je vois que j'étais un peu dans un tourbillon et que tout s'est arrêté. Et que donc, ça fait prendre conscience un peu de ce qui est essentiel et de ce qui l'est moins. Et moi, je pense que c'est à chacun à voir comment il va changer un peu quelque chose dans sa vie par rapport à sa manière de vivre, par rapport à l'utilisation de la voiture, par rapport à ce qui était un peu futile peut-être avant et dont on a pris conscience pendant ce temps et de ce qui est plus important. Voilà, moi, il m'est apparu pendant ce temps que la solidarité se mettait en œuvre. Alors que ce n'était pas facile, mais on a gardé le contact par le téléphone, par les moyens modernes. Surtout le téléphone pour moi, puisque c'était le plus facile, le plus commode. Je me suis imposé, moi, de téléphoner 3 ou 4 fois par jour à des personnes isolées, des personnes qui parlaient peu, puisqu'elles n'avaient pas d'entourage immédiat, pas de famille, pas de proches dans la maison. Donc c'est un aspect qui sera important à garder pour notre Église, ce lien avec des isolés, ce lien voilà, qu'il faut renforcer à mon avis. Hein. Là je suis déjà appelé pour porter la communion à des personnes âgées ces jours-ci. Voilà. Ensuite, nous, on a comme axe diocésain les fraternités de proximité, fraternités locales. Et je pense que le fait qu'on ne puisse se réunir qu'à 10 personnes ces jours-ci, ça peut nous aider à relancer ces petites fraternités de quartier ou de village. Voilà, il me semble que ça nous aura renforcé un peu dans ce projet diocésain que nous avons, de faire exister l'Église partout où c'est possible, à travers ces petites rencontres, ces petites équipes.
Des changements dans la façon de vivre qui vont au-delà de la vie de l'Église. C'est dans le domaine économique, dans le domaine social. Et d'ailleurs, sur le site du diocèse, vous avez fait paraître, vous avez mentionné, je crois, à plusieurs reprises, des sites ou des lieux de marchés locaux, de producteurs locaux. Ça peut être changé. Là aussi, il y a peut-être eu un changement de se rapprocher. Vous parliez, vous, de vous rapprocher des personnes isolées, mais se rapprocher aussi, peut-être, de ceux qui nous sont tout proches dans notre environnement quotidien.
Tout à fait. Alors, ici, en Ariège, on a mis en place ce qu'on a appelé des halles fermières. Et ça a permis, effectivement, d'adopter les circuits courts hein, dont on parle sur le plan économique. C'est-à-dire de voir qu'il y avait des producteurs locaux, de les voir peut-être mieux qu'au marché, hein, finalement. Au marché, ils sont un peu noyés dans une masse à travers d'autres commerce. Mais là, des producteurs de fruits et légumes, par exemple, eh bien, ça nous a permis de nous rapprocher. Je pense que sur ce plan-là, ça aura été bénéfique pour eux de pouvoir écouler leur production et de garder, d'adopter un peu ce type de consommation.
Donc c'est vrai, se retrouver dans le, comme vous disiez, dans l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est autour de nous, ce qui vit autour de nous. La mondialisation, on verra plus tard.
Voilà, mais ça, la mondialisation, ça, oui, et puis ça commence par nous, ça commence par chacun, quoi. Hein. Je ne sais plus qui disait, le monde ne changera que si chacun commence à changer un peu. Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont dit, hein, beaucoup de philosophes qui le disent, et je pense que il faut que nous aussi, on fasse cette prise de conscience, et que la prise de conscience soit suivie d'effets, hein, d'effets concrets, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je vais adopter maintenant comme un style de vie un peu différent, un peu nouveau par rapport au style qui était le mien avant.
Tout au long de ces 8 semaines, pour cheminer chacun dans sa maison avec Jésus, il a fallu également accompagner les enfants et leurs familles. Un beau défi pour le service de la catéchèse. Elisabeth Audouin, sa responsable.
On a essayé de garder le lien, bien sûr, par Internet, hein, tout simplement, en envoyant régulièrement des petites consignes pour essayer que les enfants continuent à suivre un petit peu la catéchèse en famille. Voilà, donc on avait la chance au début du confinement d'avoir choisi, enfin nous, sur Pamiers, hein, je parle, hein, pas globalement pour le diocèse, parce qu'après chaque paroisse gère un peu sa catéchèse. Mais sur la paroisse, nous, on avait choisi de faire un petit livret de carême, qu'on avait eu l'idée de leur donner un pour la maison, un pour le caté, pour être sûr qu'ils l'avaient à la fois chez eux et au caté. Et donc, on a pu faire le suivi assez facilement jusqu'à Pâques avec ce petit carnet qu'ils avaient déjà chez eux. Et à partir de Pâques, je me suis dit aussi que c'était bien de leur donner quelque chose pour le dimanche, pour essayer de les aider à vivre un temps de prière en famille. Donc on faisait deux envois depuis Pâques, on faisait deux envois, un le mardi, puisqu'on a le mardi, le caté le mardi, et un le vendredi ou le samedi, pour leur donner une petite trame de prière pour le dimanche. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de retours des familles, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les familles. Bon, là, actuellement, on envisage de redémarrer le caté, donc on a rappelé toutes les familles pour savoir si les enfants viendraient au caté. Puis du coup, on leur demande un petit peu comment ça s'est passé. Donc certaines nous disent que oui, ils ont un peu utilisé ce qu'on envoyait. D'autres, apparemment, n'ont même pas vu qu'on envoyait des choses. Vous savez, des fois, dans les mails, il y a beaucoup de choses qui passent un peu aux oubliettes. Et puis je pense que les familles ont été très sollicitées aussi par l'école et que donc, voilà, c'est... Voilà, c'était un petit peu des perches qu'on envoyait. Et puis, je pense que certains auront pu en bénéficier, auront pu l'utiliser. Ça ne nous appartient pas, non, non, non. Et même si ils l'ont utilisé qu'une fois sur les deux mois, Alors après, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant pour nous parce que on n'a pas eu beaucoup de retours. Bon, là, on va voir les familles, on va reprendre contact, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Les enfants vont aussi nous raconter, ceux qui vont revenir. Il y a, je pense, une bonne moitié qui vont revenir là au caté, donc on va avoir un petit peu des échos de ce qu'ils ont vécu. Et je pense que ça peut nous aider aussi à mieux impliquer les parents à l'avenir, là, pour les mois qui vont venir, la rentrée qui s'annonce en septembre, parce que les problèmes ne vont pas être réglés en septembre, donc il va bien falloir trouver des moyens de fonctionner peut-être un peu différents, et peut-être aider justement à ce que les familles s'impliquent un petit peu plus. Puis il y a aussi tout le problème des familles qui avaient prévu des fêtes, les premières communions, et là, il va falloir aussi inventer. Alors moi, ce que j'ai proposé, parce qu'il y a une famille, une enfant, qui est une famille pratiquante, donc la petite allait à la messe tous les dimanches, je lui ai dit qu'elle pouvait faire sa première communion tout simplement un dimanche en juin. Ils n'ont pas l'intention de faire une grande fête familiale, parce qu'il y en a, c'est un petit peu plus la fête qui compte que la communion elle-même. Donc pour ces familles-là, c'est possible que l'enfant fasse la première communion, parce qu'il suffit qu'elle soit à la messe le dimanche et elle communie. Les autres, je pense que soit on le reportera d'un an, soit à l'automne, si c'est possible. Mais on n'a pas encore réfléchi à ça, parce que on avance tellement au jour le jour qu'on ne peut pas trop faire de... on est dans le flou, donc on ne peut pas savoir si en septembre, octobre, on pourra faire à nouveau des rassemblements un peu importants.
Dans ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. »
Après cette longue période où chacun a fait preuve d'inventivité et de créativité, chacun retrouve peu à peu le quotidien de sa vie. Dans l'église Notre-Dame du Camp, tandis que quelques fidèles récitaient le chapelet, le père Cédric, assisté d'un seul paroissien, célébrait la messe dans la chapelle Saint-Joseph. Nous le retrouvons à présent dans la cour de la Maison des Œuvres, là où les prêtres du secteur s'apprêtent à se réunir autour de Monseigneur Etchaine. Le monde a changé, et l'église. Père Cédric.
Je crois que ce qu'on a pu tous voir, c'est que l'église a su s'adapter. Voilà, pendant ce confinement, pour essayer de rejoindre toujours plus les paroissiens et même ceux qui sont en dehors de l'église par de nouveaux moyens, chacun selon sa manière et ses capacités. Et même, je pense que les prêtres sont pour la plupart sortis d'eux-mêmes pour mettre en œuvre des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et parce que notre désir, je crois, à tous, c'était vraiment de rejoindre les gens là où ils sont, donc c'est-à-dire chez eux, et de ne pas les laisser tomber, quoi. Ça, c'était très clair.
De belles choses qui ont été vécues.
Oui, je crois qu'il y a de très belles choses. Il y a à la fois cette créativité dans l'Église de la part des prêtres, de la part des gens aussi, qui ont su essayer de rejoindre les uns les autres, de se soutenir. C'est les témoignages que nous avons de certaines personnes âgées et isolées. Ça restera, je crois. Cette fraternité qui a pu se vivre entre paroissiens, entre personnes et au-delà. Et puis, oui, il y a une belle créativité, des vidéos sur Internet, qui ont pu permettre aux gens de tenir bon. voilà, et de rester, enfin d'être soutenu par l'Église et en même temps par le Seigneur pendant ce temps difficile. Et ça, c'était vraiment voilà, important.
Des vidéos avec des enseignements, des vidéos qui nous faisaient vivre la messe, les offices, mais aussi des vidéos avec beaucoup d'humour. On a eu besoin de rire et de sourire pendant ces moments, c'était essentiel.
Oui, je crois beaucoup qu'il fallait aussi désarmer toute cette psychose dans laquelle on est vite rentré, en fait, et cette peur transmise par, je vais dire d'une manière générale, les médias, mais parce qu'ils nous retransmettaient les faits. Hein. C'est les faits qui sont à l'origine de cette peur et de naturelle. Hein. On ne veut pas mourir, quoi. C'est tout à fait naturel. Donc oui, il fallait un peu d'humour dans tout ça. Et même parmi les enseignements, moi, je sais, voilà, j'ai fait des vidéos sur YouTube pour les jeunes. Il fallait de l'humour pour rendre les propos légers. Il fallait parler de choses sérieuses, mais tout en les rendant aussi légères et voilà, pour désarmer. Voilà, toute cette peur, cette panique qui pouvait nous prendre.
Inventivité, créativité, la crise sanitaire et le confinement qui s'en sont suivis ont contraint la solidarité à renouveler ses formes. Au Secours catholique, c'était chacun chez soi, mais pas chacun pour soi. Pierre Assema, vice-président de la délégation Ariège-Garonne.
Le père Jean Rodin, fondateur du Secours catholique, disait « Charité n'a pas d'heure ». Alors nous avons essayé de faire, dans la situation telle qu'elle était, avec les difficultés du moment, avec les impératifs bien nécessaires que nous donnaient les pouvoirs publics, nous avons essayé d'être proches, autant que faire se peut, de ceux qui sont en difficulté et dans la galère. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est difficile à recenser. Je dirais que nous avons prioritairement essayé de garder les meilleurs liens possibles avec les personnes que nous accompagnons et favoriser le lien entre les personnes. Des coups de téléphone innombrables, des centaines, peut-être davantage, coups de téléphone entre accueillants et accueillis, parce qu'il n'était plus question d'aller dans nos locaux. C'était le confinement. Nos locaux étaient fermés, à l'exception de celui de Mirepoix, une fois tous les 15 jours. Dans les limites strictes qui nous étaient imposées par les pouvoirs publics, et Mirepoix a continué à faire de l'alimentaire, à remettre des cabas aux personnes en difficulté. Au début, les personnes venaient chercher leurs cabas, et puis ensuite on a terminé en les portant, ces cabas. Mais je peux vous dire, il fallait voir le regard des personnes qui recevaient le cabas dans leur maison. Ça parle, vous savez. Et vous savez, nous avons eu des remontées qui étaient très belles. On nous disait, un tel m'a appelé. Ils étaient étonnés. Et ça, je pense que sera un effet. Cet accompagnement qui a été fait par les personnes accueillies, entre elles. Entre accueillants et accueillis, je pense que demain, cela va avoir du fruit, ça va avoir porté, raffermi les personnes dans tout leur être.
Et pendant cette période-là, on a essayé de ne pas trop faire déplacer les gens, donc on a donné...
Véronique Nardizé, animatrice au Secours catholique.
Beaucoup plus que ce qu'on donne actuellement, que ce qu'on donnait avant. Pour pas qu'ils aient à se déplacer non plus, parce qu'il fallait faire une autorisation. Ça a été compliqué. Il fallait avoir Internet. On n'a pas pu le faire tout de suite par téléphone. Cette attestation, on avait un peu alerté les curés en leur disant, écoutez, puisque les églises sont ouvertes, ça serait bien que vous mettiez quelques attestations à disposition sur la table de presse. Ça a bien fonctionné. Voilà. Les CCAS aussi. Laisser quelques attestations sur le rebord des fenêtres. Voilà. Des gens spontanément qui les laissait au bord de... Voilà. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on a tâtonné pendant longtemps, comme le gouvernement, je suppose, hein, comme tout le monde, voilà. Mais pour les personnes qui sont loin de tout, ça a été encore plus compliqué.
Ce qui a démontré aussi une belle chaîne de solidarité et de générosité.
Toujours, c'est formidable. Et puis c'est heureux parce que les médias en général nous disent un peu tout, qu'on n'est pas très solidaires. Mais en fait, dans ces situations-là, on démontre qu'on est tous solidaires. Et même donc, du coup, on a retrouvé, c'est formidable pour notre délégation, je trouve, une espèce de recherche de sens. Avec notre aumônier, qui est l'abbé Jean Barba, et une petite équipe toulousaine d'ailleurs, et du nord toulousain, on a essayé de faire passer une lettre. On est à notre huitième lettre de spirituelle, où on a essayé de ressourcer ces gens, surtout nos bénévoles, mais qui ont fait passer cette lettre à des gens qui ne pouvaient pas la voir, parce qu'évidemment, c'était toujours par Internet. Ça, on n'est pas très bon là-dessus, sur la communication. On aurait pu faire des messages audio. Notre page Facebook de Ariège-Garonne a pas mal fonctionné aussi, où on a eu pas mal de messages comme ça, de soutien, des petites phrases pour réfléchir. Donc voilà, une espèce de solidarité nouvelle.
À bord de sa caravane de la miséricorde, guitare en bandoulière et annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le père Antoine, envoyé par son évêque, sillonnait jusqu'à quelques semaines encore les routes de l'Ariège. Mais depuis le 15 mars, sa caravane est au garage.
Ma caravane de la miséricorde est restée au garage. Et moi, ma façon de rencontrer les gens, ça a été par les écrans. Donc seulement une partie de la population, voilà, de ceux qui peuvent y avoir accès, à travers une petite chaîne YouTube où j'ai chanté. Et puis voilà, profiter. J'ai aussi pu profiter de ce temps, voilà, pour un juste retour sur soi, un temps pour la prière, un temps pour se retrouver. Et c'était bien agréable au final, je dois l'avouer. Voilà ce que j'ai pu expérimenter.
C'était un moment propice aussi peut-être pour se retrouver face à soi-même et pour vivre peut-être autre chose, plus personnelle dans sa prière, dans sa relation à Dieu et dans sa relation aux autres, même s'ils sont loin.
Moi, je vois déjà les fruits de cette période à travers les discussions ou les confessions que j'ai pu entendre avec des personnes déconfinées. Et effectivement, forcément, nous pouvons tous tirer de cette période des fruits positifs, sans nier qu'il y a un traumatisme. Et d'ailleurs, je pense qu'on va un peu trop vite en besogne sur les décisions à prendre pour l'avenir, parce que le traumatisme n'est pas encore traversé. Donc c'est pas, pour moi, ce n'est pas le moment d'envisager qu'est-ce qu'il faut faire après. Mais en tout cas, voilà, je constate moi les fruits dans la vie des gens. Et il y a de beaux fruits dans la mesure où des personnes ont osé affronter certains questionnements pendant cette période-là. Je crois qu'on a tous vécu ça de toute façon.
Et pour le père Cédric.
Maintenant, il faut reprendre. Il faut reprendre, il faut surtout pas que ça soit juste quelque chose de ponctuel qui n'a pas de conséquences. Moi, j'ai vraiment l'espérance que ce temps d'épreuve puisse porter beaucoup de fruits. Et je pense qu'avec la grâce de Dieu, c'est vraiment ce qui peut arriver. Est-ce que la prière familiale a pu être renouvelée, redécouverte, etc. Est-ce que ce jeûne eucharistique, entre guillemets, ce jeûne d'eucharistie plus précisément, nous a permis de redécouvrir le trésor que nous avons finalement tous les dimanches, ou que nous avions tous les dimanches en attendant de le retrouver, etc. Voilà, il ne faut pas, je crois, à mon sens, qu'on reste indemne de tout cela, mais dans le positif, pas dans le négatif.
Un temps d'attente qui creuse le désir. Père Gilles.
Moi, je n'ai jamais pensé que c'était négatif d'avoir cette rupture dans le temps, même pendant deux mois et demi par rapport au sacrement, parce qu'effectivement, d'abord, ça fait faire l'expérience de beaucoup de chrétiens qui n'ont pas accès au sacrement, soit parce qu'ils sont persécutés, soit parce qu'ils n'ont pas de prêtre à disposition en Afrique, ailleurs. Il y a des contrées qui ne voient le prêtre que deux fois par an. et qui vivent pourtant, et qui vivent de leur foi. Et donc, ce n'est pas négatif d'avoir cette rupture qui est imposée par les circonstances, parce que ça creuse en nous la soif, et ça permet aussi de voir que la foi ne se réduit pas aux sacrements. Bien sûr, les sacrements sont essentiels, ça je ne le nie pas, mais il y a une présence de Dieu, d'abord en nous, qu'il faut essayer de trouver. Comme disait Madeleine Delbrel, elle disait, si tu vas au bout du monde, tu trouveras la trace de Dieu, et si tu vas au fond de toi-même, tu trouveras Dieu lui-même. Voyez. Et ça, je crois que ça a permis à des chrétiens de prendre conscience qu'on peut tout à fait développer la vie baptismale que nous avons reçue simplement par la prière, par la méditation de la parole. Je pense qu'il y a des gens qui ont pu ouvrir la Bible de manière un peu plus longue que d'habitude et que ce temps leur a permis.
Le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Vie d'avant ou vie d'après, comme l'on dit aujourd'hui, il est à jamais, pour ceux qui le croient, le chemin, la vérité et la vie.
Thank you.